Manuel des terres. Des outils, des récits et de la matière pour glisser des petits cailloux dans les bottes et jeter des gros pavés dans la mare agricole. Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpossian. Durant le tournage de notre dernier épisode sorti le 6 avril 2025, Agriculture en couple, les femmes face à l'injustice économique, nous étions avec Inès, dans la Drôme. Vous vous rappelez ?
Je m'appelle Inès, j'ai 48 ans, j'ai été paysanne pendant 13 ans, je vis dans la Drôme. Et je suis en pleine réinvention, je suis en pleine reconstruction après une histoire difficile, après avoir quitté mon ex-compagnon, ma ferme, mon village. Et donc aujourd'hui, je dois tout reconstruire.
Si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite grandement à le faire avant de poursuivre. Et ensuite, de revenir ici. Comme pour chacune de nos enquêtes, nous avons poussé nos lectures, écoutes et rencontres pour trouver des ressources et des soutiens à partager. Chères auditeurices, dans ce bonus audio connecté à l'épisode d'Inès, vous pourrez entendre des extraits d'un entretien que nous avons eu avec une chercheuse, une sociologue pour être précise. Nous souhaitons avant tout vous proposer un outil audio de prévention que vous pouvez faire suivre à vos amis concernés ou qui pourraient potentiellement l'être. À organiser des écoutes collectives et des discussions pour mieux connaître la situation de chacune. À diffuser auprès de structures associatives, syndicales ou encore institutionnelles. Voici donc quelques éléments de la recherche pour éclairer la trajectoire d'Inès, avec Céline Bessière, sociologue spécialiste de la famille dans ses dimensions économiques et juridiques, professeure à l'Université Paris-Dauphine, qui a publié avec Sybille Golac sous forme d'essais et de bandes dessinées « Le genre du capital ».
Les agricultrices qui divorcent, elles se retrouvent, alors ça dépend de leur niveau de revenus et de patrimoine. On mentionnait tout à l'heure la chevrière là, qui se retrouve au RSA, dans un logement social et qui n'est pas propriétaire des terres. Elle, très probablement, elle va être à l'aide juridictionnelle. Ce qu'on a montré assez largement, ça dépasse largement le cas des agricultrices, c'est que les services qui vont être proposés par les avocats qui font de l'aide juridictionnelle, ce n'est pas exactement les mêmes ceux qui vont faire pour d'autres clients. Alors, c'est très politiquement incorrect de dire ça vis-à-vis de la profession avocate, mais l'aide juridictionnelle rémunère très faiblement les avocats. Ils le disent, ils s'en plaignent. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que des cas complexes, notamment des cas patrimoniaux complexes, professionnellement complexes, où la cliente est à l'aide juridictionnelle, ça rebute les avocats et les avocates en droit de la famille parce que c'est beaucoup d'heures, c'est un forfait en fait, l'aide juridictionnelle pour un divorce. Pour un type de divorce, que ce soit un divorce par consentement mutuel ou bien un divorce contentieux, ils vont avoir un forfait. Et donc, typiquement, le cas de votre chevrière qui se retrouve dans un divorce qui a des conséquences matérielles très importantes pour elle et elle n'a aucun revenu ni patrimoine, on peut s'attendre à ce que ce soit difficile pour elle de trouver un avocat, une avocate qui la suive et surtout qui la suive bien. C'est-à-dire, donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une vraie difficulté. Alors après, toutes les agricultrices qui divorcent ne sont pas à l'aide juridictionnelle. Parce que, en fait, dès que vous avez un petit peu de patrimoine, vous n'êtes pas à l'aide juridictionnelle. Donc, du coup, elles vont devoir payer leur conseil. Et là encore, le problème, c'est avoir des revenus pour payer son conseil. Ça coûte cher. Et ensuite, ces avocats, avocates ne vont pas du tout nécessairement être spécialiste en droit rural. C'est des spécialités vraiment différentes et c'est pas nécessairement exercé par les mêmes. Nous, ce qu'on a vu avec Sybille, donc ça c'est ce qu'il y a dans notre article de Société Contemporaine, c'est que ce qui nous a frappé, c'est combien le droit, et notamment le droit rural, protège beaucoup plus les exploitations que les femmes. Que les agricultrices. Là, je le dis dans un raccourci, la manière vraiment rigoureuse de le dire, ça serait le droit rural protège très fortement les exploitants et les exploitations et les propriétaires agricoles. Et précisément, ça favorise plutôt les agriculteurs et ça défavorise fortement les agricultrices. Voilà comment je le dirais.
Ce que vous décrivez dans votre livre, là, Le genre du capital, c'est qu'il y a au moment des séparations donc pas mal de stratégies pour minimiser le patrimoine de l'homme et du coup les compensations pour la femme. Est-ce que dans le milieu agricole, il y a des stratégies spécifiques ?
Ouais. Bah là, l'agriculture, là pour le coup, c'était presque le cas. C'est le cas un des cas où c'est le plus manifeste en fait. Pour plein de raisons. J'ai envie de dire, d'abord, il y a une espèce d'habitude, enfin de savoir-faire très fort de la part des agriculteurs, notamment propriétaires agricoles, de sous-estimer la valeur de leurs entreprises. C'est une habitude, notamment au moment des successions. C'est-à-dire que dans les successions, très souvent, un des enjeux, c'est ne pas diviser l'outil productif. Donc, on va faire, donc c'est le mécanisme qu'on a appelé des comptabilités inversées, on va faire en sorte de faire baisser en fait fortement la propriété agricole qui n'est pas vendue et qui est surtout si elle est reprise par un des enfants. Je parle des successions parce que ça va être le même mécanisme pour les divorces. Et on fait ça par plein de manières. Les entreprises, la valorisation des entreprises, les biens fonciers, à partir du moment où ils ne sont pas vendus, il y a plein de manières d'en calculer la valeur et donc il y a plein de manières d'en diminuer la valeur, de les sous-évaluer, auxquelles participe tout un ensemble de professionnels qui savent faire ça, notamment les notaires, mais pas que les notaires. Les chambres d'agriculture, les SAFER, enfin, je veux dire, tout l'écosystème sait faire ça. Ensuite, il y a, en matière dans les successions toujours, il y a aussi les salaires différés qui peuvent permettre de faire en sorte que ce qui va être compensé aux autres enfants va être diminué. Donc, dans le cas des divorces, j'ai envie de dire, tout ça est réactivé. Tout ce savoir-faire, en fait, de sous-évaluation des biens, des entreprises agricoles qui ne sont pas vendues, va être réactivé. Et l'autre chose, l'autre mécanisme très important au moment des séparations, c'est quelque chose aussi qui dépasse le milieu agricole, c'est l'invisibilisation du travail des femmes, qui concerne tous les milieux sociaux, c'est l'invisibilisation du travail domestique, mais dans le cas des agricultrices, qui concerne aussi l'invisibilisation de leur travail agricole, le fait qu'elles font tout un tas de choses qui ne sont pas reconnues, pas payées. Alors après, ça va varier selon leur statut, selon qu'elles sont associées sur une exploitation, avec un statut d'agricultrice, ou bien, situation pire, bien sûr, conjointe collaboratrice, et situation encore pire, qu'elles sont rien du tout, mais qu'elles font tout un tas de choses, en ayant un emploi salarié à côté, par exemple. Mais elles font des choses pour l'exploitation qui n'est absolument pas reconnue. Bon, ça, c'est la grande histoire de l'absence de reconnaissance du travail des femmes dans l'agriculture, dont on n'est pas, en fait, complètement sorti aujourd'hui. Et le moment du divorce, c'est le moment où, précisément, tout ça ne va pas être reconnu.
Et si on retirait 10 ou 15 000 euros en début d'année, c'était à mettre sur le compte et c'est ce qui permettait de payer la MSA, qui permettait de payer la mutuelle familiale, qui permettait de payer tous les frais courants en fait. Donc moi, je n'avais pas de salaire, non. Mais la MSA prélevait quand même quelque chose par mois, donc j'aurais quand même un minima retraite. Alors que mon ex-compagnon cotisait pour une retraite de chef d'exploitation. Donc, il aura une meilleure retraite que moi sur les 11 ans où nous avons travaillé ensemble et que moi, j'avais un statut de conjointe collaboratrice. Alors que moi, j'estime que j'ai travaillé autant que lui sur cette entreprise.
On a un très beau cas dans le... Enfin, un très beau cas, pardon. Un très beau cas d'analyse, un affreux cas en réalité dans le genre du capital, qui est le cas d'une horticultrice. Donc, c'est un couple d'horticulteurs. C'est comme le cas de votre chevrière. L'exploitation vient c'est un bien propre du mari. Ils sont mariés. L'épouse a été pendant une dizaine d'années sans statut, puis elle a eu un statut de conjointe collaboratrice. N'empêche que c'est elle qui faisait tous les marchés et qui faisait tout un tas de choses. Et au moment de la séparation, le monsieur fait une dépression, c'est vrai, et l'exploitation coule en fait, enfin, ça ne marche plus du tout. Et du fait qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires, qu'il est au bord de la faillite, mais pas la faillite quand même, du coup, il va justifier de ne pas verser de prestations compensatoires. Donc là, c'est un cas vraiment extrême où on dit « Madame était la cheville ouvrière de l'exploitation horticole. » D'ailleurs, c'est elle qui faisait tout, elle était tout le temps sur les marchés, elle était très active. Et depuis que le couple s'est séparé et qu'elle est partie, ça ne marche plus. Donc, monsieur n'a pas les moyens de compenser madame avec une prestation compensatoire. C'est vraiment absurde, quoi. C'est son travail qui fait que il peut pas payer, donc on la paye pas. 15 ans de mariage, 7 années où elle travaille sans aucun statut légal, puis elle devient conjointe collaboratrice. Donc, les 7-8 années suivantes, mais toujours pas rémunérée, mais elle cotise pour la retraite, le chômage. Elle demande une prestation compensatoire de 50 000 euros et elle va obtenir zéro. La décision du juge, c'est comme le divorce a provoqué l'appauvrissement des deux époux, il n'a créé aucune disparité entre eux. C'est quand même vraiment cruel, hein, pour justifier qu'elle a zéro de prestation compensatoire. Donc ça, c'est un cas particulièrement édifiant. Alors, dans ce cas, quand même, par rapport à la chevrière que vous mentionnez tout à l'heure, ils étaient mariés. Et ça, ça change des choses. Je ne suis pas une militante pro-mariage, hein, pas du tout. Moi, je serais plutôt pour étendre, que ce soit clair, hein, je serais plutôt pour étendre aux couples non mariés des droits qui ne sont que pour les couples mariés. Mais dans l'état actuel du droit, le mariage vient protéger. Donc ça, ça veut dire que dans ce couple, elle ne va pas avoir de prestations compensatoires, ce qui paraît vraiment totalement injuste vu qu'elle a travaillé 15 ans gratuitement pour l'entreprise de son mari. Mais comme ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, ça veut dire que tout ce qui a été acquis pendant la durée du mariage est aux deux. Donc, en fait, elle récupère quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Hein, dans mon souvenir, c'est quelques centaines de milliers d'euros au titre de la communauté de biens réduite aux acquis. S'ils n'avaient pas été mariés, elle repart avec zéro. Zéro, zéro. Alors qu'en étant mariée, le régime matrimonial vient la protéger, en fait. Mais, il y a un gros mais, en fait, les agriculteurs aujourd'hui mariés sous le régime légal, eh ben, ce n'est pas la majorité des cas. Parce que le conseil qui est donné aux indépendants, notamment par les notaires, mais enfin aussi par les chambres d'agriculture, etc., c'est de faire des contrats de mariage en séparation de biens. Ce qui vient protéger l'exploitation à nouveau. La manière dont on le vend aux femmes, cette histoire, c'est de leur dire « Vous faites un régime de séparation de biens, comme ça, s'il y a un problème au niveau de l'exploitation, imaginons faillite, ça ne vient pas entamer votre patrimoine. » Certes, mais ça veut dire aussi que l'épouse ne bénéficie pas de l'enrichissement professionnel lié à l'exploitation, à l'entreprise. Donc ça, ça fait de très grosses différences, en fait, sur la manière dont les femmes se sortent des divorces. Si elles sont sous le régime légal, même si elles étaient pas très bien rémunérées, voire pas du tout rémunérées, même si elles n'obtiennent pas des prestations compensatoires, elles repartent avec quelque chose qui est la protection de la communauté matrimoniale. Mais si elles étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, ou, cas de plus en plus fréquent, si elles n'étaient pas mariées, alors elles ne bénéficient pas de ça. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, en fait, je pense. Par les couples, notamment par les jeunes couples, notamment par les jeunes couples qui s'installent dans une agriculture alternative, qui sont souvent anti-mariage. Et je comprends bien pourquoi on peut être anti-mariage, mais n'empêche que, en termes d'égalité femmes-hommes, ça a vraiment des effets. Encore une fois, il ne faut pas déformer mes propos. Hein. Mais je ne suis pas en train de dire aux gens « mariez-vous », je suis en train de dire « ayez conscience ». Des choix ou non-choix en fait, matrimoniaux que vous êtes en train de faire sur les conséquences patrimoniales et notamment quand il y a une exploitation agricole. Ça a des effets.
Mais par contre, un couple qui serait marié avec sous le régime légal, le risque, c'est que s'il y a séparation, ils doivent vendre la ferme.
En tout cas, ça veut dire qu'il faudra compenser celui ou celle qui part, en fait.
Ça peut venir heurter, disons, un autre enjeu politique qui est celui de ne pas laisser les petites fermes aller à l'agrandissement des paysans.
Exactement. C'est toujours l'argument qui est donné, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit avec Sybille. C'est qu'en fait, il y a tellement cette idée de protéger les exploitations agricoles qu'on les protège au détriment des femmes. C'est vraiment ça ce qui se passe. Et c'est l'argument que vous dites, les petits contre les gros, défendre les petites entreprises, défendre les exploitations, etc. C'est exactement cet argument qui est donné. Mais le coût social, il n'est pas porté par les hommes, il est porté par les femmes. Et l'autre point aussi, tout à l'heure, dans le cas des horticulteurs, je mentionnais la prestation compensatoire, ce qui est quand même un peu la moindre des choses. C'est-à-dire, on a une femme qui a travaillé 7 ans gratuitement, sans statut, puis 8 ans en tant que conjointe collaboratrice, sans salaire, pour une exploitation dont la propriété vient de son mari. La prestation compensatoire, c'est le mécanisme du droit en cas de divorce, et de divorce uniquement, qui vient compenser les inégalités économiques nées du divorce. Et donc, dans les choses qui sont dans les critères, en fait, il y a la durée du mariage, il y a le fait d'avoir des enfants, d'avoir interrompu son activité professionnelle pour s'occuper des enfants, etc. Donc là, on a vraiment un cas qui permettrait de compenser, en fait, toutes ces 15 ans d'activité dans l'entreprise. Mais, j'insiste, la prestation compensatoire, c'est que pour les couples mariés. Ça n'existe pas. On ne peut pas en demander, ça n'existe pas pour les couples non mariés. Donc là encore, on a un mécanisme de compensation économique au moment des divorces qui n'existe pas pour les couples non mariés. Il n'y a pas de prestation compensatoire pour les couples pacsés. Et le PACS, le mécanisme de la communauté là, que j'explicitais tout à l'heure, là, du régime légal du mariage en France, communauté de biens réduite aux acquis, ce n'est pas le régime du PACS par défaut. Alors, il est possible, mais il faut faire une démarche supplémentaire, donc la plupart des gens ne le font pas, de demander un PACS avec une communauté de biens réduite aux acquis. Ça peut être une solution. Alors, pas pour la prestation compensatoire, mais pour bénéficier de la communauté, de faire des PACS en instaurant le fait de faire patrimoine commun. Mais c'est comme dérogatoire, en fait. Il faut faire une démarche en plus pour avoir ça. Le PACS, de base, c'est la séparation de biens.
On est allé voir une avocate au barreau de Rennes qui, du coup, elle, fait du droit rural et du droit de la famille. Donc, elle s'occupe quasi exclusivement de familles agricoles. Elle voit très, très peu passer des couples non mariés dont l'un ou l'autre n'a pas de statut ou un statut précaire, ce qui se comprend par leur profil sociologique. Ils ne vont pas du tout voir de conseils, etc. Elle voit quand même, par contre, une assez grande diversité, petites fermes, grandes fermes, bio, non bio, et des femmes de tous âges. En fait, elle a essayé de creuser, voir s'il y avait des pistes pour les femmes qui n'ont pas de statut et qui ne sont pas mariées. Et elle a évoqué un truc qui s'appelle la société de fait.
Il faut penser à une institution qui est rarement appliquée, mais qui existe, qui est celle de la société de fait ou société créée de fait. C'est quelque chose qu'on peut faire valoir si on n'a précisément rien, on ne peut se raccrocher à rien d'autre parce qu'il n'existe pas de société, parce qu'il n'y a pas de mariage qui protège, etc. Alors, je ne dis pas que c'est une voie royale, mais c'est une voie qui peut peut-être être explorée.
Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? En gros, c'est une piste où il faut prouver qu'il y avait l'intention du partage, de la communauté dans le fonctionnement de l'exploitation, et que la personne qui n'avait pas de statut a amené soit de l'argent, soit des biens, soit des compétences. Et ensuite, faire la démonstration qu'en fait, c'était bien une entreprise à 50-50 et que du coup, elle peut revendiquer du patrimoine.
Je vois bien l'idée, c'est une bonne idée. En pratique, moi, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue dans les dossiers. Les dossiers de divorce, j'étais dedans quand même encore jusqu'à 2018-19. Et je ne l'ai jamais vue dans un dossier. Mais c'est une piste juridique intéressante. C'est important, en fait, qu'il y ait une réflexion de juristes sur comment faire reconnaître le travail des femmes à ces exploitations agricoles et dans ces moments, dans ce moment, enfin, qui n'épargne plus du tout. Parce qu'il y a encore, fin des années 90, on disait, bon, bah, c'est simple, les agriculteurs, ils ne divorcent pas. C'est la catégorie socioprofessionnelle qui ne divorce pas. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, en fait. Ils divorcent, il y a des séparations. Et ces séparations sont vraiment très, très, très coûteuses pour les femmes, au nom de la protection des exploitations agricoles, au nom de tout un tas de choses, au nom du fait que les gens ne sont pas mariés, etc. Et donc, c'est des pistes juridiques vraiment intéressantes. Moi, pour l'instant, je ne les ai pas vues en pratique. Maintenant, il faut les mettre en œuvre.
Et vous en avez observé d'autres, des pistes juridiques?
Ben non, moi, je ne suis pas une juriste. Hein. Je suis sociologue. Justement, c'est une différence avec les juristes. Je pense que les juristes, ils sont là pour réfléchir à proposer des nouveaux outils juridiques, comment faire jouer le droit. Moi, c'est plutôt voir quel est le droit et l'usage du droit. Quels sont les usages du droit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que mon constat, il est plus pessimiste, en fait. C'est que les usages du droit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on fait baisser artificiellement les valeurs des exploitations pour pas payer les compensations aux femmes. Il y a plein de femmes qui n'ont pas droit à des prestations compensatoires. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, mais bien au-delà du milieu agricole, les indépendants, chefs d'entreprise qui, juste après leur divorce, sont malades, n'ont plus de revenus, sont au bord de la faillite. Ça, c'est quelque chose qui existe, enfin, qui est une technique, en fait. Enfin, une technique. Je pense qu'il y a une part de vrai aussi, parfois, mais faire baisser très fortement ses revenus au moment de son divorce, ben, ça permet de ne pas payer... de payer des pensions alimentaires plus faibles, des prestations compensatoires plus faibles, si on est marié, des compensations patrimoniales plus faibles. Enfin, ça, c'est un usage du droit très commun, que j'ai beaucoup vu. Mais après, sur les techniques juridiques pour contrer tout ça aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure personne là. Il vaut mieux parler à des juristes, dont c'est le métier.
Personnellement, je suis en lien avec plusieurs agricultrices qui sont dans ces situations-là. Et il y en a une qui est vraiment très, très à fond, hein, qui a même obtenu le soutien de la Confédération paysanne locale, qui a dit à son ex-compagnon, en fait, même si le droit n'est pas là, bah, faut que tu partages. Donc voilà, elle cherche des voies légales. Et donc, cette société de fait, c'était un peu genre, ah ok, au moins un truc à explorer, quoi. Mais c'est vrai que presque, il faudrait monter un groupe de travail autour d'elle et aller essayer de plaider ça. Trouver une avocate qui soit partante et tenter le truc. Mais bon, voilà, c'est beaucoup d'argent.
Et oui, c'est ça. La mise en œuvre, c'est pas facile, surtout quand on est dans les premiers cas. Alors après, il y a les pistes qui ont été beaucoup discutées, les pistes européennes, j'ai envie de dire. Il y a eu des cas en Espagne, au Portugal, de reconnaissance a posteriori du travail domestique des femmes. C'est pas des cas d'agricultrices, mais c'est un peu le même genre d'idée. C'est-à-dire que c'est faire reconnaître a posteriori, au moment du divorce, la contribution des femmes au mariage ou à la conjugalité ou à la vie commune en chiffrant la valeur du travail réalisé. Et le travail chez les agricultrices, ça peut être du travail domestique et ou du travail agricole, en fait, et ça peut chiffrer davantage. Donc ça, c'est peut-être aussi une piste, à ma connaissance, pas du tout encore appliquée en France, mais ça peut être une piste de réflexion.
Dans le cas d'Inès, à un moment, elle dit qu'elle estime qu'elle a été victime de violences économiques. Est-ce que vous, c'est un terme que vous acquiescez, enfin que vous validez
Alors, violences économiques, c'est un terme que je l'ai pas utilisé jusqu'à présent dans mes travaux, mais je dis pas qu'un jour je le ferai pas. C'est un terme qui est en train de monter, d'être popularisé. Je pense à raison. C'est pas une notion qui vient initialement de la recherche. C'est plus une notion qui vient de plein de milieux professionnels différents, du monde juridique. Donc, il y a la Convention d'Istanbul qui mentionne ce terme en 2011, et des milieux féministes aussi, qui ont fait un continuum entre violence physique et violence économique. Et c'est vrai que c'est intéressant de penser le continuum entre les deux, c'est-à-dire le fait que très souvent, la violence conjugale, la violence intrafamiliale va aussi avec des formes de violence économique. Et alors après, il faut bien sûr définir ce qu'on entend par violence économique. Avec Sybille, dans Golag, dans Le genre du capital, on a travaillé plutôt sur comment la famille produisait des inégalités économiques structurelles. J'ai envie de dire qu'ils concernent à peu près toutes les familles, tous les milieux sociaux, tous les couples, et qui est très structurelle. Et ce n'est pas du tout qualifié la plupart du temps par les gens de violence, même si dans certains cas, il peut y avoir par ailleurs des violences. Le terme de violence économique, il insiste quand même sur quelque chose d'un peu spécifique et qui pourrait être d'ailleurs à terme pénalisé, en fait. C'est ça l'enjeu, qui renvoie à empêcher sa compagne d'avoir accès à des moyens de paiement, faire en sorte qu'elle s'appauvrisse, l'empêcher d'épargner, contrôler son accès à une carte bleue, contrôler toutes ses dépenses et régir les dépenses de consommation de façon extrêmement rigide. Tout un tas de phénomènes, en fait, qui, pour l'instant, sont pas apparaissent beaucoup, en fait, dans les dossiers de violence conjugale, mais qui ne sont pas pénalisés, j'ai envie de dire, en soi. Donc, je pense que là, en ce moment, il y a quand même tout un tas de des groupes féministes, des juristes, des institutions financières bancaires qui commencent à se saisir de ce terme qui permet de désigner quelque chose que jusqu'à présent, on ne désignait pas en tant que tel. Et donc, je pense que pour nous, sociologues, c'est en train de devenir un objet de recherche, c'est-à-dire que permet de désigner ce terme, qui sont les personnes qui s'en saisissent, voilà. Alors, pour moi, là, ça n'a rien de spécifique à l'agriculture, en fait, ce terme des violences économiques. Je pense que ça traverse la société française. Mais ça permet quand même de mettre le doigt sur des choses dont on ne parlait pas, en fait.
J'ai l'impression, dans ce que vous dites, que pour le moment, ça couvre aussi une intention de la part du mec d'exercer une coercition économique sur la femme. Alors que nous, finalement, les cas qu'on traite, c'est plutôt... Bon, alors, soit il peut y avoir des personnes qui le voient, etc. Bon, mais on peut s'imaginer, en tout cas, les travaux de Madeleine Samak sur ces couples mettent plutôt en lumière que c'est un impensé, en fait. Et aussi, finalement, qu'il y a une espèce de hiérarchisation des luttes autour d'être dans une action très engagée, écologique, anticapitaliste, et que les droits des femmes, bon, c'est pas vraiment une problématique. Et puis, bah, voilà, il y a une croyance hyper forte dans la solidarité de couple, quoi.
Mais je pense que vous avez raison sur l'idée d'intention. C'est-à-dire, pour moi, ça recouvre la différence aussi entre le civil et la différence juridique entre le civil et le pénal. C'est-à-dire que moi, ce dont on parle là depuis le début de notre conversation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que dans le seul cas des violences physiques et des violences économiques, où il y aurait éventuellement la possibilité de pénaliser les choses, enfin de faire des procès en correctionnel où la société dirait cette personne a maltraité économiquement telle autre personne. Là, on est plutôt dans le domaine du civil, c'est-à-dire de l'organisation de la famille, l'organisation de la conjugalité au moment des divorces. Et il y a quelque chose de très structurel. Il y a de l'inégalité économique femmes-hommes structurelle et beaucoup dans les couples d'agriculteurs-agricultrices qui ressort au moment des divorces, y compris dans des divorces où, dans le fond, ça se passe plutôt bien, des divorces par consentement mutuel où personne n'a envie de faire mal d'une certaine façon. Le travail réalisé par les femmes va être invisibilisé, pas payé et elles vont se retrouver vraiment appauvries. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt de ça dont je parle. Au-delà de... Mais je ne dis pas que les violences économiques, ça n'existe pas. Je pense que c'est très important que cette catégorie émerge, y compris juridiquement. Mais je parle de quelque chose qui est plus structurel, plus partagé.
Le dernier point qu'on voulait aborder, c'est le rapport à la propriété des terres, l'attachement affectif qu'il peut y avoir, qui est très fort dans le milieu agricole. Nous, dans l'enquête qu'on a menée, ce qui a été compliqué entre les deux conjoints au moment de la séparation, c'est qu'en fait, les terres, c'était l'héritage du conjoint, donc qui les avait hérité de sa famille. et qu'il était très attaché sur un plan affectif à ses terres, ce qui justifiait aussi que ce soit lui qui soit plus légitime à rester, même s'ils ont travaillé tous les deux pendant 13 ans sur la ferme. Du coup, comment ce rapport-là historique à la propriété, il peut avoir un impact sur la ferme en tant qu'outil de travail, sur le partage et la transmission de cet outil?
Bon, c'est très paradoxal. L'histoire de l'agriculture en France est une histoire de maintien de propriété agricole familiale tout au long du 19e et au long du 20e siècle. Et malgré des transformations énormes, tout a changé, l'agrandissement considérable des exploitations, on est resté attaché à ce modèle de la propriété familiale. Et c'est paradoxal parce que cette histoire d'attachement, en fait, quand on le creuse un peu historiquement, en fait, si on prend 19e, 20e siècle, il y a eu d'abord plein d'agriculteurs dont les enfants ont cessé d'être agriculteurs donc, et agricultrices. Il y a eu ce qu'on appelle l'exode rural, mais il y a eu aussi plein de choses moins connues de mobilité rurale. C'est-à-dire que ce qu'on présente comme un attachement viscéral à un lieu, en fait, l'histoire du 19e et 20e siècle, ça c'est Paul-André Rosenthal qui avait travaillé là-dessus, mais il y avait des mobilités aussi très fortes au 19e siècle et au début du 20e siècle d'agriculteurs qui se déplaçaient d'une région à l'autre. Les Vendéens sont venus en Charente, des Bretons sont venus en Vendée. Enfin, il y a eu des déplacements enfin, au sein des propriétés agricoles. Donc, c'est un peu de l'ordre du mythe aussi, cette histoire d'attachement. Si vous prenez une propriété agricole aujourd'hui en France et que vous la tracez sur un siècle, une propriété familiale, en fait, la propriété n'a rien à voir. Enfin, vu les agrandissements, les transformations mécaniques, chimiques, enfin, tout ce qu'on veut de l'agriculture, ça n'a juste plus rien à voir physiquement. Et pourtant, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup entendu ça. Je suis attachée, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. C'est à la fois de l'ordre du mythe, mais ça a pourtant des effets. Et alors là, plus largement, il y a cet effet de l'héritage, en fait. Quand on reçoit quelque chose de ses parents et que c'est un héritage, alors ça, là aussi, ça dépasse le secteur agricole, mais vous êtes contraint sur l'usage, en fait. Ça a été montré notamment par Viviana Zelizer et par d'autres, mais vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez de ce que vous recevez de vos parents. Parce que quand on n'est pas dans cette logique-là, et cette logique est en réalité pas du tout une logique économique rationnelle, du tout. Mais elle est néanmoins très présente. On peut le déconstruire quand même, cette histoire de l'attachement affectif aux terres. Et en même temps, ça a des effets très puissants sur ce que les gens vont faire de leur vie, en fait.
Merci beaucoup à Céline Bessière pour ses éclairages et les pistes précieuses qu'elle apporte dans cet entretien. Nous espérons vraiment que cela vous sera utile. Vous pouvez retrouver les travaux qu'elle a réalisés avec Sybille Golac, « Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités », un ouvrage paru en 2020. Et aussi l'article « Des exploitations agricoles au travers de l'épreuve du divorce » paru en 2014, qui lui traite plus spécifiquement des cas des femmes agricultrices. Vous pouvez aussi écouter sur Blast notre 4e épisode « Agriculture en couple, les femmes face à l'injustice économique », où Inès nous raconte l'histoire de sa séparation et son combat pour que les femmes cessent d'être les grandes perdantes des séparations et divorces dans les couples agricoles.
Désolée, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini, et infini à des millions moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes la bande, le club, le gang qui reprend tout. Nous allons renverser.